Bonjour. Sur Fréquence 7, comme tous les premiers mercredis du mois, on se retrouve, qu'il soit 12h30 ou 17h30, pour la rubrique Claire d'Étoile de l'association Claire d'Étoile et Brin de Jardin. Aujourd'hui, c'est Marilyn Bardou, qui va nous présenter les éphémérides de ce mois de février 2020 avant de développer un thème particulier. Bonjour Marilyn.
Bonjour Daniel. Bonjour à toutes et tous. Jusqu'à notre prochaine rubrique du 4 mars, voici les spectacles du ciel visibles à l'œil nu et aux jumelles. En soirée, vers 18h30, une petite demi-heure après le coucher du soleil, on ne peut pas louper la planète Vénus, resplendissante au-dessus du sud-ouest. C'est l'astre le plus brillant dans le ciel du soir en ce moment, après la Lune bien sûr. La Lune qui, justement, passera non loin d'elle du 26 au 28 février. De jolis croissants lunaires soulignant l'éclat de Vénus constituent toujours de belles images crépusculaires. En partant de Vénus, si l'on descend plus bas vers l'horizon, encore un peu illuminé par le soleil couchant, on pourra voir Mercure. Il faut profiter de cette bonne mais courte période de visibilité de cette planète qui, en raison de sa proximité avec le Soleil, reste très souvent noyée dans les lueurs solaires. Après avoir trouvé Mercure, retournez-vous vers le sud-est pour retrouver les magnifiques constellations spécifiques au ciel d'hiver. Orion, tout d'abord, dont les trois étoiles alignées et de même éclat, formant la ceinture du personnage, sont un bon repère. Bras tendus, main grande ouverte, l'extrémité du petit doigt posée sur l'étoile supérieure de cette ceinture, le bout de votre pouce dirigé en bas à gauche pointe l'éclatante Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. En partant en sens inverse, bras toujours tendus, main grande ouverte, le bout du pouce posé sur l'étoile inférieure de la ceinture d'Orion, l'extrémité du petit doigt dirigé vers le haut à droite arrive sur Aldébaran, l'étoile principale du taureau, au-dessus de laquelle vous percevrez le petit groupe très resserré des Pléiades. C'est dans le ciel de l'aube, horizon sud-est, avant que le soleil soit levé, que nous pourrons voir d'autres planètes. Vers 7 heures, les 15 premiers jours de février, la rougeoyante planète Mars se trouvera juste à gauche de sa rivale en couleur, l'étoile Antarès, et surplombera le bel éclat de Jupiter. Au fil des matins, on percevra le déplacement de Mars vers l'est. Et fin février, vers 6h30, elle se sera rapprochée de Jupiter, formant un alignement planétaire Mars Jupiter et Saturne plus bas sur l'horizon. Entre-temps, un croissant de lune du matin visitera Mars le 18 février, sera entre Mars et Jupiter le 19 et entre Jupiter et Saturne le 20. Il faut indiquer aussi de beaux passages de la Station spatiale internationale visibles en soirée actuellement. Dès ce 5 février, l'ISS filera d'ouest en est aux alentours de 18h35, puis à nouveau vers 20h15, elle frôlera Vénus, comme tous les soirs suivants jusqu'au 9 février. D'autre part, notez que nous voyons de plus en plus de satellites, entre autres plusieurs points d'un même éclat disposés en ligne et filant à même vitesse, ce sont les reflets sur les panneaux solaires de satellites lancés récemment à des fins de communication Internet. Pour finir, il ne vous a pas échappé que nous avons un jour de plus cette année 2020, dite bissextile. Comme à peu près tous les 4 ans, ce mois de février aura 29 jours. Pour comprendre pourquoi et l'origine du mot bissextile, je renvoie à l'excellente explication de Pascal Batardière sur les calendriers dans notre rubrique de mars 2019, que vous pouvez réécouter sur le site clairdetoile-brinjardin.info/émission-fréquence-7-2019.
Merci Marilyn pour toutes ces informations. Et maintenant, je crois savoir qu'il va être question d'histoire de l'astronomie.
Oui. La rubrique de Pascal sur Galilée le 4 décembre dernier m'a donné envie de parler de notre grand scientifique dont la démarche et les travaux, que nous ne pourrons pas détailler ici, sont considérés comme pionniers de l'astrophysique et de l'optique. Il s'agit d'un astronome allemand qui a vécu fin du XVIe, début du XVIIe siècle, Johannes Kepler.
Début XVIIe siècle, n'est-ce pas justement à cette époque que Galilée passe devant le tribunal de l'Inquisition ?
Tout à fait. Mais lorsque Galilée prononce la formule d'abjuration préparée par le Saint-Office en 1633 à Rome, il y a déjà près de 3 ans que Kepler est décédé à Ratisbonne, en Bavière. Galilée et Kepler étaient contemporains. Ils ont eu des échanges épistolaires, mais l'admiration et le soutien apportés par Kepler, ses demandes de collaboration, n'ont pas reçu de Galilée la considération qu'elles auraient méritée. Johannes Kepler est né en 1571 à Weilderstadt, bourgade du Saint-Empire des Habsbourg, proche de Stuttgart, dans une famille protestante, ce qui a son importance à cette époque d'intolérance et de schisme religieux en Europe. Ses parents étaient aubergistes. Son père, mercenaire, violent et alcoolique, disparaîtra totalement de la vie de la famille en 1589 après son nouveau départ dans l'armée du duc de Württemberg. Quant à sa mère, que Kepler devra passer plus de 6 ans à défendre contre des accusations de sorcellerie, donc il décrira sa mère comme petite, maigre, sinistre et querelleuse. Le petit Johannes, né prématurément de nature chétive, souffrira toute sa vie d'une santé fragile et d'une mauvaise vue. De 9 à 11 ans, il travaillera comme journalier agricole.
Décidément, on ne peut pas dire qu'il soit né avec une cuillère d'argent dans la bouche.
Non. Il parviendra cependant à poursuivre ses études jusqu'à l'obtention d'une maîtrise à l'université de Tübingen, où il suit des cours d'astronomie. Kepler avait découvert l'astronomie avec ses parents. À moins de 6 ans, sa mère l'a emmené voir le passage d'une comète, et à 8 ans, il observait l'éclipse de lune du 31 janvier 1580 avec son père. À l'université de Tübingen, son professeur d'astronomie, Michael Mestlin, est obligé d'enseigner le système géocentrique de Ptolémée.
Selon lequel la Terre est au centre de l'univers.
Oui, mais il est un fervent admirateur du nouveau système héliocentrique de Copernic.
Selon lequel toutes les planètes tournent autour du Soleil.
C'est cela. Michel Mestlin fera de Kepler un copernicien enthousiaste et demeurera un ami fidèle. Avant la fin de ses études en théologie, Kepler est appelé à l'école protestante de Graz, en Autriche actuellement, comme mathématicien. Cette charge comprend à la fois de l'enseignement, mais aussi la publication de prédictions astrologiques.
Astrologiques ?
Tout à fait. Au XVIe siècle, la distinction entre science et croyance n'est pas clairement établie et le mouvement des astres, encore assez méconnu, est gouverné par les lois divines. Kepler fait quelques prédictions réussies et devient un astrologue renommé. Mais s'il a une approche indéniablement mystique, beaucoup trop d'ailleurs aux yeux de Galilée, il n'est pas tout à fait dupe et aurait déclaré « Où en serait la sage astronomie si elle n'eût pas eu pour fille une folle comme l'astrologie ? La mère serait morte de faim. » C'est durant son séjour à Graz qu'il écrit à 24 ans, son premier ouvrage, Mysterium Cosmographicum, traduit selon les auteurs par Le secret du monde ou Le mystère cosmographique, dans lequel il part de questions sur les 5 planètes connues alors.
Qui étaient, si je ne me trompe pas, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et Saturne.
Exactement. Donc posant les questions, pourquoi y a-t-il 5 planètes ? Et quelle est leur distance au Soleil et leur vitesse ? Kepler présente dans cet ouvrage non seulement la supériorité du système copernicien, mais expose, en faisant le compte rendu détaillé de son cheminement intellectuel, il expose donc son modèle géométrique de l'univers basé sur une série de polyèdres emboîtés. Cette théorie paraît aujourd'hui fantaisiste, mais elle a permis à Kepler d'entrer en contact avec ses contemporains. D'une part avec Galilée, car le livre de Kepler était le premier plaidoyer convaincant en faveur de l'héliocentrisme. D'autre part avec Tycho Brahe, mathématicien impérial à la cour de Prague, qui l'invite à travailler à ses côtés. Poursuivi pour ses convictions religieuses et ses idées coperniciennes, Kepler se réfugie donc à Prague en 1600, d'autant plus volontiers qu'il y rejoint Tycho Brahe, le plus grand observateur de son époque, ayant accumulé 20 ans d'observations planétaires et des mesures les plus précises jamais effectuées. Les relations entre les deux personnages sont houleuses, mais de courte durée. Tycho Brahe décède dès 1601, laissant à Kepler ses mesures et son poste de mathématicien impérial auprès de l'empereur Rodolphe II. Après 8 ans de travail acharné, appuyé sur les observations de Tycho Brahe, Kepler découvre les relations mathématiques qui régissent les mouvements des planètes sur leur orbite. Ces relations, dites « lois de Kepler », sont fondamentales. Elles ont été plus tard exploitées, entre autres, par Isaac Newton pour élaborer la théorie de la gravitation universelle. Kepler publie les deux premières lois en 1609 dans Astronomia Nova et la troisième 10 ans plus tard dans Harmonices Mundi, l'harmonie du monde. En substance, elles mettent en évidence, premièrement, que les orbites des planètes ne sont pas circulaires mais elliptiques. Ellipse dont le Soleil est un des foyers. Deuxièmement, que la vitesse des planètes n'est pas uniforme, mais est plus rapide lorsque la planète est au plus près du Soleil. Enfin, la troisième loi établit une relation entre période de révolution et distance de la planète au Soleil. Les lois de Kepler permettent rien de moins que de prévoir les positions futures d'un astre en calculant son orbite complète, et, complété par les travaux de Newton, d'envoyer des sondes dans l'espace interplanétaire.
Merci Marilyn pour cet exposé sur Kepler, et je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Fréquence 7, et vous dis au mois prochain.